الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. طيب، هذا الحديث إلى قوله وابدأ بمن تعول أخرجه المصنف في الصحيح، وأما من قولي تقول امرأتك الحديث هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. Donc, on passe au hadith suivant, le hadith 196. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Musaddad ibn Musarhad nous a rapporté et a dit Hamad ibn Zayd nous a rapporté selon Asim ibn Bahdala. Donc ici, عاصم ابن بهدلة يعني بهدلة أمه وقيل أبوه وهو أحد القراء السبعة أبو بكر الثقة وكان في حفظه شيء. طيب، donc on a ici عاصم ابن بهدلة. Donc بهدلة c'est soit le prénom de sa mère soit celui de son père. Peu importe, ici c'est l'un des sept lecteurs يعني transmetteurs de la lecture du Coran al-Karim. Donc عاصم ibn بهدلة Abu Bakr, qui fait partie des transmetteurs fiables de hadith. طيب، عن أبي صالح، selon أبي صالح، selon أبي هريرة رضي الله عنه، qui a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: la meilleure aumône, c'est celle qui, lorsqu'elle est donnée, fait que la personne demeure dans, yani, dans une aisance. D'accord ? Dans une aisance. On va expliquer, inshallah ta'ala. Puis il dit, et la main la plus haute est meilleure que la main la plus basse. Et commence par yani, dépenser pour ceux qui sont sous ta responsabilité. D'ailleurs, na'am. Puis on a une suite dans le hadith, طيب, mais il dit le Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, que le hadith jusqu'à la parole, il commence par ceux qui sont sous ta responsabilité. Ce passage jusqu'ici de ce hadith est rapporté également par l'imam al-Bukhari dans son sahih, mais ce qu'il y a après cette parole-là, eh bien, il dit c'est une parole qui s'arrête à Abu Huraira رضي الله عنه وكي نو رمونت دونك با جوسكو بروفيت عليه الصلاه والسلام. نعم، فمعاني الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقه ما بقى غنى، اي ظل صاحب الصدقه بعد الصدقه مستغنيا بما بقي معه، ونكر غنى ليفيد انه لابد من التصدق من غنى ما، اما غنى النفس وهو الاستغناء عما بذل إذا جعله في يد الله تعالى بسخاوة النفس ثقة بالله رب العالمين، وإما غنى بالمال الحاصل في يده الذي بقاه عنده. طيب، donc on va expliquer ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit la meilleure aumône ma baqqa ghinan, c'est-à-dire l'aumône qui fait que celui qui l'a faite, celui qui l'a donnée, hein, donc après qu'il l'ait donnée, la personne demeure quand même dans une aisance taïeb, grâce à ce qui lui reste, yani comme bien matériel et comme argent. Taïeb, yani dans le sens où il n'a pas donné tous ses biens, mais il a donné yani une aumône, hein, mais il lui reste encore de quoi subvenir à ses besoins et bien sûr à ceux de sa famille et de ses proches. Non, ça c'est la meilleure aumône. Donc il dit le cheikh, le terme rinan, hein, il est nakira, c'est-à-dire il est indéterminé, rinan. Cela nous montre que il faut que des aumônes soient faites, hein, à partir de toute richesse. À partir de toute richesse. Car le rinan, c'est la richesse à la base. D'accord? Que ce soit une richesse au niveau de la personne elle-même, yani de sa générosité, la personne yani qui se passe totalement de ce qu'elle donne et qui place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, ou une richesse matérielle tout simplement yani, donc à travers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné comme richesse, comme bien matériel, et ainsi de suite. طيب فقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا يعني المعطية واليد السفلى يعني المعطى لها والسائلة. Donc lorsqu'il dit le prophète la main la plus haute est meilleure que la main la plus basse, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, la main la plus haute, c'est celle qui donne. D'accord? Celle qui donne l'aumône, qui verse l'aumône. Et la main la plus basse, c'est celle qui reçoit. D'accord? Celle qui reçoit ou celle qui demande. D'accord? Celui qui demande, il tend la main. Donc la main la plus haute, celle qui donne, est meilleure que la main qui reçoit. Voyez? Ou qui demande. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan wujubu l'infaqi ala zawjati wal-awladi والمملوك. طيب. Première chose que l'on tire de ce hadith et le hadith précédent également, l'obligation de dépenser pour l'épouse, les enfants et les esclaves. L'obligation de dépenser pour l'épouse, les enfants et les esclaves. ثانيا بيان أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة ومفهوم ذلك أن من لم يقصد القربة لا يؤجر ولكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة ولكن لا بد من أن يقصد القربة حتى يتحصل على الأجر. Deuxièmement, la mise en évidence du fait que la récompense dans la dépense ne sera donnée et effective que si l'individu émet l'intention de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses dépenses. Que ce soit des dépenses obligatoires ou permises. Donc ce qu'il faut comprendre à partir de cela est que celui qui n'a pas émis l'intention de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas récompensé à travers cette aumône. Mais il aura quand même honoré son obligation, d'accord, qui est de dépenser pour son épouse, pour ses enfants, etc. Mais il est obligatoire de mettre l'intention de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cette adoration, d'accord, afin qu'il puisse bénéficier de la récompense
auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Thalitha, bayanu anna l'insana yuthabu ala nafaqati l'wajiba alayhi. Ka thawabi nafaqati idha arada biha wajha Allahi tabarak wa ta'ala. Wala shakka anna thawab al-fardhi aktharu min thawab al-nafila. Troisièmement, le fait que l'individu est récompensé pour son aumône ou pour sa dépense obligatoire, comme il est récompensé pour sa dépense facultative, à condition bien sûr qu'il désire par cela satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de doute que la récompense d'une dépense obligatoire est plus grande que celle de la dépense facultative. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان أن أفضل الصدقة ما بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم على النفقة بل يسر بها. Ce que l'on tire du hadith d'Abi Huraira, le dernier là. Premièrement, le fait que la meilleure aumône, c'est laquelle? C'est celle qui fait que la personne qui l'a faite demeure, entre guillemets, dans l'aisance. C'est-à-dire qu'il lui reste encore de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et de ses proches. Et ainsi, il ne regrettera pas d'avoir fait son aumône. Parce que celui qui donne tous ses biens au monde, il se peut qu'il les regrette par la suite, car il se retrouve à son tour dans le besoin, et il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins ou à ceux de ses enfants ou sa femme ou ses proches. Voyez? Donc celui qui dépense, mais qui lui reste encore de quoi subvenir à ses besoins, alhamdoulillah, il sera au contraire réjoui et joyeux de l'aumône qu'il vient de faire. Thaniyan, تفضيل الغنى للرجل الصالح الذي يقوم بحق الفقير في المال. Deuxièmement, le fait que pour l'homme qui est pieux, l'homme qui est vertueux et qui honore les droits des pauvres sur ses biens, pour cette personne-là, il sera meilleur pour elle qu'elle soit dans la richesse. D'accord? Qu'elle soit dans la richesse. Celui qui respecte les droits des pauvres et des nécessiteux sur ses biens, il sera meilleur pour lui d'être quelqu'un de riche, taillé, pour justement bénéficier un maximum à la communauté. Troisièmement, كراهية السؤال والتنفير منه وأنه لا يجوز إلا لضرورة ملحة. Troisièmement, le fait qu'il est détestable de demander. Et qu'il faut donc, au contraire, s'en éloigner. Le fait de demander aux gens, de tendre la main. Et que cela n'est pas permis. Sauf si il y a une nécessité, yani, pressante ou urgente. Rabi'an bayanu anna awla an-nas bin nafaqa huwa alladhi yajibu alayka nafaqatuhu. Quatrièmement, le fait que les personnes qui sont les plus prioritaires par rapport aux dépenses que tu dois faire, ce sont ceux qui, justement, pour lesquels tu es obligé de dépenser, tels que ton épouse, tes enfants, tes esclaves. طيب. خامساً وجوب نفقة الزوجة والعبد والابن على المرء. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. Et cinquièmement, l'obligation de dépenser pour l'épouse, pour l'esclave, on l'a dit, pour l'enfant. L'imam muslim a rapporté dans son sahih, dans une version de Abi Huraira, radiallahu anhu, qui donc a rapporté la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit: un dinar que tu as dépensé dans le sentier d'Allah, un dinar que tu as dépensé pour affranchir un esclave, un dinar que tu as donné en aumône, yani pour un pauvre, un dinar que tu as dépensé pour ta famille, celle qui a le plus de récompenses, hein, c'est la dépense que tu as faite pour ta famille. Donc parmi toutes ces dépenses, la meilleure dépense, celle qui a le plus de récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celle que tu as dépensée pour... Pour qui? Pour ta famille, na'am. Hassan. طيب. فننتقل إلى الحديث التالي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. هذا الحديث حديث حسن، ابن عجلان صدوق، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. حديث numéro 197. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Kathir nous a rapporté et a dit, Sufyan nous a rapporté. Ici, quand l'imam al-Bukhari, rahimahullah, mentionne le prénom Sufyan, yani, sans préciser sa kunya ou le nom de son père, par exemple, sachez que c'est Sufyan al-Thawri. D'accord? Sufyan al-Thawri. Donc, nous a rapporté selon, ou nous a informé, selon Muhammad ibn Ajlan, selon le Maqbouri, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, qui a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné de faire, yani, une aumône. D'accord? Il a ordonné de dépenser, d'accord? Pour, justement, les personnes qui sont sous nos dépenses. Et notre responsabilité. Un homme a alors dit: j'ai un dinar. Le prophète, il lui a dit: dépense-le pour toi-même. Il les dépense pour toi-même. L'homme de dire: j'en ai un autre. J'ai un autre dinar. Le prophète, il lui dit: dépense-le pour ton épouse. L'homme, il dit: j'en ai un autre. Et le prophète, de lui dire: dépense-le pour ton servant ou ton esclave, et ensuite, anta absar. Ensuite, tu sais mieux que quiconque, yani, parmi nous, pour qui tu devras dépenser si tu as encore de l'argent. Donc, ce hadith est un hadith qui est hasan, qui est bon. Et Ibn Ajlan, c'est un transmetteur véridique. Et le hadith rapporté aussi par l'imam Ahmed, أبو داود النسائي إلى الحاكم. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم على زوجتك في المشكات قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. ونفقة الولد الصغير لا تقبل الانفكاك، لا تقبل الانفكاك، بخلاف نفقت الزوجة مثل حال النشوز. Donc dans une version que l'on retrouve dans le Mishkat, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: anfiqhu ala waladik. Il dit: dépense-le pour ton enfant. Et quand l'homme il lui a dit: j'en ai un autre de dinar, il dit: dépense-le pour ta famille, yani pour ton épouse. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que la dépense pour l'enfant, donc l'enfant, eh bien, ne pourra jamais être évitée. C'est-à-dire qu'elle sera obligatoire de manière constante. Contrairement à la dépense que l'on fait pour l'épouse, il se peut que cette dépense-là, il soit autorisé de ne plus la faire pour l'épouse, dans certaines situations ou certains cas. Parmi eux, le fait que l'épouse soit naashiz, qu'elle soit désobéissante, hein, et qu'elle ne remplisse pas ou n'honore pas les droits de son époux. Dans ce cas-là, l'époux a le droit de ne plus dépenser pour elle. Vous voyez? Naam. فمعاني كلمات بصدقة المراد بها ها هنا النفقة. أنت أبصر أي أنت أدرى بذوي قرباك فقدم الأحواج منهم في الأحواج. فرتب صلى الله عليه وسلم أولوية النفقات وبين أهميتها وأعظمها نفقة المرء على قضايا حاجته ثم على زوجه ثم على المملوك الخادم ثم أنت أبصر. Donc, dans ce hadith, le terme sadaqa ici, il a le sens de la dépense. Yani pour qui la. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on fasse des dépenses. D'accord? Donc lorsqu'il dit Anta Absar à la fin, lorsqu'il dit j'ai encore un dinar, il le dit Anta Absar. C'est-à-dire tu sais mieux que nous parmi tes proches qui sont dans le plus dans le besoin et qui ont besoin le plus que tu dépenses pour eux. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un ordre, une classification de priorité au niveau des dépenses. Il a exposé leur importance et nous fait comprendre que la dépense la plus importante, yani c'est déjà celle qui va le permettre de subvenir et de combler ses besoins personnels. Ensuite, c'est celle qu'il va faire pour son épouse. Ensuite, c'est celle qu'il va faire pour yani ses esclaves. Taïeb, et on a vu la version d'un autre du livre, Yani Al-Mishkat, dans lequel il a fait précéder l'épouse par les enfants. Naam. Puis, après les servants, après les esclaves, il a dit Anta Absar, c'est-à-dire, encore une fois, tu sais mieux que nous qui sont les plus dans le besoin par rapport à tes dépenses. Ma yukhadhu min al-hadith, hadha al-hadith fihi tawjihun wa ta'limun lis-sa'il. أين يضع صدقته؟ إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه على نفسك يعني ابدأ بنفسك فإن البدء بالنفس أعظم أجرا من البدء بالغير لأن صاحب المال الذي يملكه يبدأ بنفسه فيستغني عن الناس ويكون له الأجر ثم أولى الناس بالنفقة الزوجة يعني الزوجة التي هي تحت يده ونفقتها من الواجبات عليها لا على أبويها ولا على أقاربها فيبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بوالديه ثم بأولاده وهكذا الأقرب والأقرب فإذا كثر المال بيده فيتوسع في الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما زاد عن نفقة الأقارب قال أنت أبصر أي تضعه في المكان الذي تكون أو الذي يكون لك فيه الأجر. Donc on tire de ce hadith le fait que ce soit une orientation, un conseil et un enseignement pour le questionneur qui se demande où dois-je ou pour qui dois-je dépenser ou verser des aumônes. Étant donné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il dit « dépense à la nafsik », pour toi-même. Yani, commence par toi-même déjà. D'accord? Donc le fait de commencer par soi-même, yani, cela a plus de récompenses que du fait de commencer par quelqu'un d'autre. Car le propriétaire de ses biens, en commençant par lui-même, eh bien, il va se passer des gens. Il n'a pas besoin des gens.
Et en cela, il aura donc une récompense. Et par la suite, les gens les plus prioritaires, qui méritent le plus, hein, qu'ils dépensent pour eux, tout d'abord, il y a Azzaouja, l'épouse, qui est donc sous sa responsabilité. D'accord? Donc, le fait de dépenser pour son épouse fait partie des obligations qui pèsent sur l'époux. Donc, dépenser pour l'épouse, hein, pour la femme, ces dépenses-là ne reviennent pas ou ne pèsent pas sur le dos de ses parents. Les parents de la femme, non. Ni sur les proches de la femme, les frères et les sœurs, non. Cela est à la charge de son mari. D'accord? Donc il doit commencer par lui-même, bien sûr, puis par sa femme, puis par ses parents, il y en a les parents de l'homme, puis par ses enfants, et ainsi de suite, il y en a du plus proche au moins proche. D'accord? Et si, alhamdoulilah, Allah tabarak wa ta'ala, il lui a donné une richesse, une fortune conséquente, eh bien, il peut continuer à dépenser, à faire des aumônes, comme il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si, après avoir dépensé pour son épouse, ses parents, ses enfants, etc., il lui reste encore de l'argent, il lui dit, Anta absar, tu sais mieux que nous, yani, qui parmi tes proches, qui parmi les gens que tu connais, hein, ont le plus besoin qu'on les aide financièrement, et ainsi tu recevras donc la récompense adéquate à ton aumône, inshallah ta'ala. Voyez? فقوله صلى الله عليه وسلم أنت أبصر أي أعلم بأمرك وبحال من تصدق عليه من أقاربك وجيرانك وأصحابك ويحتمل الخبر بمعنى الإنشاء أي كن ذا بصيرة ذا خبرة ثم أنفق حسب بصيرتك. Donc lorsqu'il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam أنت أبصر. Les savants ils disent, c'est-à-dire, tu es plus savant de ton cas et du cas de ceux pour qui tu peux dépenser, parmi tes proches, tes voisins, tes amis, d'accord? Naam, anta absar. Mais il se peut aussi que cette phrase soit en vérité un ordre, hein, dans le sens où il lui dit, sois clairvoyant, sois, yani, sache et regarde, sois clairvoyant par rapport aux gens qui ont le plus besoin de ta dépense, donc, et puis tu dépenseras par conséquent selon la clairvoyance et selon l'étude, entre guillemets, des cas que tu as faites. Non? ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا كره أن يأكل مع عبده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد وفي سلسلة الصحيحة وقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله باللفظ فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. Donc on passe au hadith numéro 198 et au chapitre 100 d'ailleurs aussi, intitulé « Celui qui déteste manger avec son esclave ». Celui qui déteste manger avec son esclave. Donc il dit le Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Makhlad ibn Yazid nous a informé et a dit, Ibn Jurayj nous a informé et a dit, Abu Zubayr m'a informé qu'il a entendu un homme demander à Jabir, hein, demander un homme à Jabir, au sujet du servant de l'homme.
C'est-à-dire lorsqu'il est éprouvé par la difficulté, la chaleur, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on l'invite, et qu'on l'invite à manger avec nous? Et il a répondu, Naam, oui. Puis il a dit, Fa'in kariha ahadukum, et si l'un de vous déteste manger avec lui, eh bien qu'il lui donne à manger une bouchée, hein, qu'il lui donne dans sa main une bouchée, yani. D'accord? Et qu'il lui donne à manger quand même. Donc ce hadith, il est sahih, il est authentique, rapporté aussi par Ibn Hibban dans son sahih, authentifié donc par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans sahih Al-Adab Al-Mufrad et Al-Silsilati Sahiha. L'imam Muslim l'a rapporté également à travers la tournure de phrase Falyunawilhu uklatin. Yani qui lui donne à manger une bouchée ou deux. D'accord? Une bouchée ou deux. Taïeb. فمعاني الكلمات الأكلة بضم الهمزة اللقمة وأما بفتحها فهي المرة من الأكل. Le terme الأكلة dans en arabe avec la dhamma sur le alif الأكلة c'est une bouchée, لقمة. Une bouchée, on dit الأكلة ou اللقمة. Mais avec la fatha, الأكلة, ça sera yani le fait de manger. Le fait de manger, yani un repas, on appelle ça الأكلة. طيب. إذا كفاه المشقة والحر. أي إذا عانى المشقة في تهيئة أدواته وقاص حر النار في طبخ الخبز وشي اللحم. Donc lorsqu'il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, hein? Ou plutôt lorsqu'il dit ici le transmetteur du hadith, إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرُ lorsque l'esclave ou le serviteur est éprouvé par la difficulté et la chaleur. C'est-à-dire lorsqu'il prépare à manger. Hein, lorsque l'esclave ou le serviteur prépare à manger, lorsqu'il prépare ses outils, tout ce qu'il faut ou les ingrédients pour concocter le repas. Donc il est éprouvé par, bien sûr, la difficulté, par la chaleur des flammes hein, qui sortent du four, par exemple, dans lesquelles il fait cuire le pain et retire la viande. Donc c'est ça le sens de « إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرُ فَلْيُتِعِمْهُ أُكْلَةً وَالْعِلَّةُ فِي إِعْطَاءِ اللُّقْمَةِ أَنَّهُ تَوَلَّى عِلَاجَهُ وَتَحَمَّلَ مَشَقَّةَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ عِنْدَ الطَّبْخِ وَتَهِيَأَ. Donc il dit, qui lui donne à manger une bouchée. D'accord? La raison donc pour laquelle il doit lui donner à manger, c'est que parce que le servant, yani, c'est fatigué, taïeb, c'est lui qui s'est chargé de concocter, de préparer ce repas et qui a patienté face à la chaleur des flammes et à la fumée lors de la cuisson, hein, lors de la préparation, etc. Donc, yani, il est bon de lui donner à manger, bien sûr. Taïeb. Idan, idan, kafahu al-mashaqqa. Idan, fi tahi'ati adawatihi. Wa qasa har nar fi tabkhi al-khubz. Wa ja'ali al-khubz fi tannur. Wa ikhrajihi minhu. Wa raf'u al-qidri ala al-athafi. Wa fi tashwiyati al-lahm. Wa ghayri dhalika fi طبخ الأطعمة وسحق أبازيره ومزجها بالتوابيل وما يطيب أو ما يطيب به الإدام وفي تليين الخبز بتواتر التكبيس في العجين فكما أن لمولاه حقا في هذا الطعام لملكه أو لملكه وبذل النفقة فيه كذا جعل شرع حقا للعبد لخدمته ومقاساته عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم خادمة فليبدأ به فليتعمه أو ليجلسه معه فإنه ولى حره ودخانه. Les savants disent ici par rapport à la parole, إذا كفاه المشقة. Lorsque il est touché donc par la difficulté, lorsqu'il prépare à manger, lorsqu'il prépare les ingrédients ou les outils ou les instruments dont il a besoin pour cuisiner, lorsqu'il est éprouvé par le feu des flammes, lorsqu'il fait cuire le pain, lorsqu'il met le pain dans le fourneau, lorsqu'il sort le pain du fourneau, lorsque il pose la marmite sur les pierres brûlantes, comme il faisait à l'époque, lorsqu'il fait rôtir la viande et autres que cela parmi les préparations du repas, lorsqu'il va disséminer les épices, il va les mélanger pour que la sauce yani, soit bonne, lorsqu'il va ramollir le pain hein, avec la pâte, etc., etc. Donc, tout ça, ça rentre dans la difficulté lors de la préparation. Voyez. Donc, comme son maître, il a un droit sur cette nourriture, c'est normal, parce qu'elle lui appartient, et parce qu'il a dépensé pour la préparer, c'est lui qui a acheté tout ce qu'il faut pour la préparer, etc. Donc, il a un droit certain sur cette nourriture. Eh bien, il faut savoir que la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala a aussi donné un droit à cet esclave, car c'est lui qui l'a préparé, et c'est lui qui s'est confronté à toutes ces difficultés pendant la préparation et pendant le fait de concocter ce plat. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: lorsque votre servant vient à vous, eh bien commencez par lui. Nourrissez-le ou asseyez-le avec vous. D'accord? Yani qu'il le nourrisse ou qu'il l'asseye avec lui, car certes, c'est lui qui a subi yani, sa chaleur et sa fumée. Il y a la chaleur des flammes et la fumée yani, causée par les flammes yani, sur les aliments. Naam. Jayed. ما يؤخذ من الحديث أولا الحث على تكريم المملوك وتشجيعه وذلك بإجلاسه معه على الطعام أو بإعطائه من الطعام على الأقل وهذا من مكارم الأخلاق ومن ميزات هذا الدين الحنيف. On extrait de ce hadith premièrement l'encouragement d'honorer les esclaves et de les motiver, les encourager. Et cela en les faisant s'asseoir avec eux, avec nous, pardon. D'accord? En les faisant s'asseoir avec nous lors du repas, ou au minimum en leur donnant, bien sûr, de quoi manger à travers cette nourriture qu'ils ont préparée. Et cela donc fait partie des comportements nobles hein, et des vertus de la religion monothéiste d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, an la yasta'thara ala al-khadimi bi shay. بل على مالكه أو مخدومه أن يشرك في كل شيء بحسب ما يدفع به شر عينه. Deuxièmement, qu'il ne faut pas que le maître n'y monopolise tout pour lui et qu'il ne donne rien à son esclave. Au contraire, le maître, d'accord, se doit de l'associer avec lui dans toute chose. D'accord? Et cela y en est par rapport notamment au fait de repousser le mauvais œil qui peut provenir de l'esclave. Hein? Si on ne lui donne rien, il se peut que l'esclave, de par son désir et son envie de manger hein, de ces choses-là, d'être associé à son maître dans le manger, dans la consommation de ce repas-là, eh bien qu'il provoque un mauvais œil, d'accord? Donc pour calmer ou pour repousser ce mauvais œil qui peut se produire, il est bon de associer son esclave dans ce que l'on fait. ثالثا بذل الأسباب في تزكية النفس وتحصيل التواضع. Troisièmement, le fait de faire les causes pour purifier son âme et pour parvenir à la modestie et à l'humilité. Donc le fait d'inviter son esclave, son servant à manger avec soi, bien sûr, cela fait augmenter la modestie et l'humilité chez la personne. Rabi'an, ihtiramu man dunahu fil manzila. Et enfin, quatrièmement, le respect envers ceux qui sont inférieurs à nous, en degré et en rang dans la société. D'accord? Donc le fait que tu sois avec une personne qui peut être inférieure à toi au niveau de son rang social, qui peut être plus pauvre que toi, ou qui n'a pas atteint un degré social que tu as atteint toi, eh bien tu te dois quand même de la respecter. D'accord? Tu dois la respecter et lui montrer du respect et de l'attention. طيب والحمد لله إذا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته